Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti que nous repartons en balade aujourd'hui dans les rues de Paris. Le confinement l'a surpris à Nice où il était en train de plaider aux assises. Il y est resté 2 mois, il vient juste de regagner la capitale. Il nous a donné rendez-vous à son bureau, rue La Boétie.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On peut entrer ?
Entrez.
Comment allez-vous, maître ?
Je vais très bien, monsieur Frédéric Taddeï.
Content d'être de retour à Paris ?
Content, mais surpris.
Surpris par quoi ?
Par l'ambiance.
Comment la trouvez-vous ?
Bah, c'est une ville fantôme.
Qu'est-ce que vous auriez dit il y a un mois ? Là, c'était vraiment une ville fantôme. Là, il y a quand même du monde dans les rues.
Oui, mais pas tellement. Hier, j'ai circulé un peu dans Paris. Je trouvais que... il n'y avait personne, puis les restos fermés, les bars fermés. C'est bizarre quand même.
Assez bizarre en effet. Vous avez retrouvé votre bureau, il vous manquait ?
Non, ce qui me manque c'est l'audience.
Ça reprendra quand ?
Alors, pour moi, ça reprend début juin.
L'audience, parce que c'est là que ça se joue ? Parce que c'est là qu'on emporte la décision ou pas ?
L'audience parce que c'est ma vie professionnelle. Mon métier, c'est de prendre les dossiers et de les plaider. Donc là, évidemment, c'est une activité réduite à la vacuité, à sa plus simple expression.
Quelles conséquences a eu l'épidémie sur la justice ?
Je pense que les périodes de crise, c'est toujours révélateur de ce que sont profondément les êtres. Et il y a une lumière particulière qui a éclairé la justice. Mais c'est une lumière sombre. On s'est servi du Covid-19, en réalité, pour s'autoriser des choses qui sont interdites et illégales. Je m'explique un peu là-dessus. Pour faciliter la tâche des juges, en réalité, la chancellerie a permis, par exemple, de maintenir en détention des hommes qui n'ont pas été présentés devant les juges. Donc, pas de présentation devant les juges, c'est pas de contradictoire, et parfois même pas d'avocat. Depuis 1793... loi dite des suspects, on n'avait pas connu une telle situation en France. Et alors, à Marseille, le tribunal correctionnel s'est même autorisé à condamner à 3 ans un homme qui n'a pas été présenté, à raison de la pandémie, qui n'a pas été vu en visioconférence et qui n'était pas représenté par un avocat. C'est-à-dire que sur dossier, il s'est trouvé 3 juges pour lui coller 3 ans ferme à la lecture d'un dossier qui pouvait être contesté, enfin... C'est un contradictoire réduit à néant, et ça n'a pas empêché certains d'y aller allègrement.
Pour les libérations anticipées, en revanche, on a entendu tout le monde. Hein, la procédure a été respectée.
Non, mais les libérations anticipées, ça correspond en réalité à ce qu'autrefois on appelait, même si techniquement c'est différent, l'amnistie ou la grâce du 14 juillet. C'est-à-dire qu'on a tellement de monde en taule. Dans des conditions tellement inhumaines et dégradantes. Et ces mots-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont les mots des juridictions internationales. Ce sont les mots de ceux qui s'occupent de la prison. Qu'il fallait évidemment faire un peu d'oxygène, là. Ce qu'on a fait, je rappelle que le confinement des détenus, c'est le confinement dans le confinement. Et notamment, ils ont été privés de parloir. Interdiction de voir leur famille. Ce qu'ils ont pour la plupart d'entre eux compris, parce qu'il y avait aussi un risque que le virus sorte de prison pour contaminer les membres de la famille. Mais enfin, ils ont été privés de parloir. À l'origine, on leur avait même interdit le gel hydroalcoolique. On avait peur qu'ils le boivent. Donc, il y a à peu près 10 000 détenus en fin de peine. Et je rassure tout le monde, c'est pas des gens qui ont commis des infractions graves. C'est pas des gens qui ont été libérés alors que le procès n'a pas eu lieu. C'est des gens qui étaient en fin de peine. Et on a gratté quelques mois de détention. Dans cette crise, il n'y avait aucune raison qu'on ne le fasse pas. D'ailleurs, moi, pour ne rien vous cacher, j'aurais souhaité, mais je n'ai pas beaucoup d'autorité en la matière, que le président de la République renoue avec la tradition régalienne de la grâce présidentielle ou de la loi d'amnistie.
La grâce présidentielle, ils ont renoué. Nicolas Sarkozy a gracié notamment Jean-Charles Marchiani.
C'est le seul qui a été gracié, à raison du fait qu'il s'est bien conduit en prison.
François Hollande avait gracié Jacqueline Sauvage.
Partiellement.
Et je crois que Emmanuel Macron a gracié une ancienne prostituée qui avait tué son client et qui a passé 20 ans, non pas en prison, mais en hôpital psychiatrique.
Non, mais d'accord, mais autrefois, moi, j'ai prêté serment en 84. Tous les ans, il y avait une loi d'amnistie, 14 juillet. Ça permettait de désengorger un peu les prisons de cette incroyable surpopulation pénale. Hein. Je rappelle quand même que. Il y a des directives de la direction des services vétérinaires pour la détention des chiens, en termes de superficie. Ça n'existe pas pour les hommes, ça. On est dans des taux d'occupation qui sont absolument scandaleux et qui sont indignes de la France, pays des droits de l'homme. D'ailleurs, on va rappeler, sans faire de catastrophisme, que en matière de détention, on est juste mieux placé que la Moldavie, ce qui n'est quand même pas une référence formidable. Et en matière de condamnation par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on doit être le 12e du classement, alors que nous devrions être le premier du classement. Donc il y avait cette loi d'amnistie, les détenus l'attendaient, ça permettait de désengorger les prisons juste avant la pesanteur de l'été, et c'était une bonne idée. Et puis dans son programme ultra-sécuritaire, Nicolas Sarkozy a dit « moi je vais abandonner cette prérogative régalienne, je pense qu'il a eu tort de le faire ». Et c'était l'occasion ou jamais, là, dans cette période de crise, de renouer avec ça. Parce que cette période de crise, elle nous contraint à la réflexion sur la privation de liberté.
Eh bien, allons faire un tour dans Paris, et puis vous nous raconterez tout ça.
Allons respirer dans Paris. Paris libéré.
Frédéric Taddeï, sur Europe 1.
Nous voilà dans la rue de la Boétie, avec Éric Dupond-Moretti, la rue de votre bureau... C'était la rue des Galeries d'Art, autrefois, après la Première Guerre mondiale, Picasso avait son atelier au numéro 23, juste à côté, là. Paul Rosenberg avait sa galerie juste à côté aussi, au 21.
Et Yves Saint-Laurent aussi.
Ouais. Et au 21, c'est là qu'il y avait l'Institut des questions juives pendant l'occupation. C'est là où il y avait eu l'horrible exposition « Le Juif et la France ». Vous aimez ce quartier ?
Ouais, j'aime bien ce quartier. Faut que je fasse tour opérateur aussi.
Non.
Non, j'aime bien ce quartier, c'est pratique.
Ouais. Mais je vous ai connu, vous arriviez de Lille en voiture.
C'est ça.
Vous logiez dans un hôtel Ibis, je crois, près des Halles, pas loin du palais de justice.
C'était pas Ibis, mais c'était effectivement près des Halles, ouais.
Ouais. Donc vous êtes devenu un vrai Parisien.
Je suis devenu un Parisien parce que je vis à Paris, mais j'ai pas les réflexes d'un.
Ah oui.
J'ai pas tous les réflexes d'un Parisien, non.
À quoi vous les voyez, les réflexes d'un Parisien ?
Non, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Là, j'ai droit à mes secrets aussi.
D'accord. Revenons à la justice. La tendance, si je vous entends bien, c'est qu'en fait, on voudrait condamner les gens sans juge, sans avocat, sans témoin, sans jury. Même sans qu'ils aient fait quoi que ce soit. D'ailleurs, parfois, c'est juste s'ils ont eu l'intention de faire. Ce serait ça la tendance aujourd'hui ?
Moi, je constate depuis quelques années là, l'émergence de ce que j'ai appelé une nouvelle race de juges ou une nouvelle clique de juges, qui sont les gardiens autoproclamés de la morale publique ou les gardiens autoproclamés de la nouvelle transparence. Et ceux-là, ils n'aiment pas le contradictoire. Ils n'aiment pas les avocats. Et les avocats sont de moins en moins invités à la table judiciaire. Et ces exemples que je donnais tout à l'heure là, démontrent à l'évidence qu'il y a des juges dans ce pays... qui sont capables de coller 3 ans à un type qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas entendu et qui n'a pas été défendu. Je ne sais même pas si en Chine on ferait des trucs pareils. Et tout ça sans que beaucoup de gens s'émeuvent. À l'inverse, il y a quelques juges, ils ne sont pas majoritaires, mais ils ont résisté à la directive de la chancellerie. Et ils ont montré leur indépendance. Les autres se sont tous alignés. Parce que le problème de cette loi-là, de ces ordonnances qui ont été prises, c'est qu'elles ont été préparées par les directeurs de cabinet du garde des Sceaux. Alors pour le coup, ce ne sont pas des énarques, mais ce sont des magistrats. Et donc ce sont des textes qui ont été faits par les magistrats et pour les magistrats. Et l'autre exemple, c'est que, par confort, on a augmenté tous les délais butoirs de détention. Vous savez que dans notre pays, quand on est détenu, au-delà d'un certain temps, on doit être remis en liberté. C'est la loi, c'est la procédure pénale. Tous les délais ont été allongés, sauf un seul... qui est ce qu'on appelle le référé détention, qui permet au procureur d'interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté. Ça a pour effet de maintenir le type en prison. C'est-à-dire que tous les délais qui étaient favorables aux détenus ont été allongés, et la seule mesure qui était défavorable aux détenus et qui, elles aussi, comportent des délais, ben ceux-là, ils ont été maintenus. Voilà, ça en dit long sur l'état d'esprit actuel.
Europe 1, 11h30, en balade avec Frédéric Taddeï.
On arrive à la place des Saussets, c'est le ministère de l'Intérieur. L'entrée qu'on peut observer d'ici, qui est celle aujourd'hui de la direction de la police et de la gendarmerie nationale, autrefois c'était la sûreté, c'était la police politique du Second Empire, puis de la Troisième République.
Oui, mais ce qui compte, c'est pas les locaux, c'est les hommes, non?
Oui.
Et la façon dont ils envisagent leurs fonctions. On ne peut pas comparer les époques, heureusement.
Et les institutions aussi.
Je sais que sur les réseaux sociaux et ailleurs, hélas, certains voudraient comparer notre pays à une dictature. Je pense que nous sommes là dans l'excès.
Ah.
Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est le nombre parfois qui fait l'intelligence.
On appelle ça l'intelligence collaborative.
On appelle ça notamment l'intelligence collaborative, oui. On s'interdit de réfléchir et au fond... On est bien au chaud dans les pensées, quelles qu'elles soient, quand on est un certain nombre à les partager. C'est un peu ça qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a ces espèces d'emballements. On peut naturellement, quand on est dans une démocratie, critiquer.
On vous reproche parfois de malmener les témoins. Au fond, c'est le contre-interrogatoire qui gêne aujourd'hui.
C'est le contradictoire qui gêne. Ben évidemment, il y a une pensée unique judiciaire. Il y a aussi une volonté de transparence, que moi j'appelle la transpercence. Il y a aussi, évidemment, une espèce de morale confisquée. C'est particulièrement vrai dans les affaires de mœurs, ou dans les affaires qui concernent des politiques. Dans les affaires de mœurs, on considère aujourd'hui qu'une accusation vaut preuve. Et vous avez vu qu'une centaine d'avocates pénalistes se revendiquant du féminisme ont rappelé dans une très belle tribune, courageuse d'ailleurs, qu'il ne suffisait pas à une plaignante d'accuser pour que ce soit une preuve, qu'il fallait que le processus judiciaire s'enclenche, qu'il y ait un contradictoire. C'est ça la justice. La justice sans contradictoire, c'est l'arbitraire.
Mais le contre-interrogatoire, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours la culture. Parce qu'au fond, le reproche que vous faites, vous pouvez le faire aussi aux médias. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, on condamne sans procès et on condamne sans contre-interrogatoire.
Et c'est pas que je pourrais le faire aux médias, c'est que je le fais aux médias. Je trouve qu'on est de moins en moins respectueux de la présomption d'innocence. Il y a une espèce d'emballement. Vous savez, moi, je suis assez favorable à la création d'un conseil de l'ordre des journalistes qui sera évidemment géré par les journalistes. J'ai aucune vocation à être le censeur de qui que ce soit, mais je trouve qu'il y a de véritables dérives. Par exemple, au nom du journalisme d'investigation, on s'autorise des procédés qui sont interdits à la police. Je pense en particulier à la caméra cachée. Vous allez voir un type, vous le mettez en confiance, il vous dit des choses que peut-être publiquement il n'a pas envie de dire et qu'il a le droit de ne pas dire, et ça se retrouve diffusé dans une émission grand public. C'est un vol de la parole, c'est une violation d'un secret. On ne peut pas vivre sans secret.
On se retrouve dans un instant, le temps de faire le tour de la place Beauvau. Et on se retrouve avec Éric Dupond-Moretti.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avenue Marigny, on longe le palais de l'Élysée. Il fait très beau, il n'y a pas tellement de monde.
Non, qu'est-ce que c'est bon de se promener au soleil, non?
Ah oui.
Par exemple, quand on peut se promener au soleil tous les jours, on oublie à quel point c'est bon de se promener au soleil. Et en ça, d'ailleurs, ce confinement peut avoir, sans certitude, mais peut avoir quelque chose de positif sur l'appréhension qu'on a de notre propre liberté.
Mais justement, c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant ce confinement. Est-ce qu'on était plus libre pendant le confinement ou moins libre? On peut vraiment se poser la question. Elle marche dans les deux sens. Évidemment qu'on était moins libre parce qu'on ne pouvait pas sortir. Mais au fond, on était plus libre parce qu'on était libre de son temps.
Oui, on était libre de réfléchir. Et on a tous fait des choses que... On aurait sans doute...
Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Du jardinage. je me suis découvert une passion pour le jardinage. Et je dois dire avec un certain bonheur, parce que je me suis même découvert une main verte.
Vous êtes rasé aussi?
Oui, mais tous les mecs qui n'avaient pas de barbe l'ont laissé pousser, puis les mecs qui en avaient une... Non, mais vous savez pourquoi? Parce que, regardez, des gestes totalement anodins, genre se raser, genre aller chercher le sel, Ça permet d'abord d'occuper l'esprit, et c'est un temps, un petit temps, gagné sur la vacuité. Et souvent, ça m'a ramené à l'univers carcéral. Je pense qu'en prison, on décompose les choses comme ça, pour gagner quelques secondes sur la condamnation infligée.
On a un but.
On a un but. Et aller chercher le sel, alors qu'on s'en fout en temps normal, ça devient presque un bonheur.
J'ai connu ça aux Bahamas, où on s'ennuie terriblement, et aller à la poste me semblait une aventure extraordinaire.
Qu'est-ce que vous foutiez aux Bahamas? Dites-nous tout.
Ben, je m'ennuie.
Répondez.
En 68-69, il y a eu la grippe de Hong Kong. C'était la première pandémie mondiale, donc post-trafic aérien, on va dire. Le gouvernement, à l'époque, n'avait pris aucune mesure. C'est à peine si on s'en rendait compte qu'il y avait une épidémie, à part dans les hôpitaux, parce que ça a quand même fait 31 000 morts en deux mois en France. Et personne n'a porté plainte après. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a pris beaucoup de précautions. Mais on rivalise de procédures pour mise en danger de la vie d'autrui. Le gouvernement est très fier du million de contraventions que la police a données à ceux qui ne respectaient pas le confinement. Et il y a déjà 60 plaintes contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger ou homicide involontaire, en attendant les plaintes contre les élus, peut-être même contre les chefs d'entreprise. Cette judiciarisation, c'est plutôt bon pour les avocats, non ?
Bon, économiquement, peut-être, mais enfin, socialement, c'est une catastrophe. Vous savez, moi je suis pas un courtisan, mais j'ai essayé parfois de me mettre à la place des gens qui nous gouvernent. Je me suis dit, mais quand même, ils doivent pas dormir beaucoup, ces gens-là. La moindre des décisions peut avoir des conséquences en termes de santé publique catastrophiques, irrémédiables, selon qu'on confine, selon qu'on confine pas masque, etc. Bon. Alors évidemment, il y a eu des couacs. Mais il faut quand même se souvenir, objectivement, que les politiques ont pris leurs initiatives après avoir consulté une communauté scientifique qui elle-même a beaucoup tergiversé. Raoult, pour les uns, c'est un héros. Pour d'autres, certains de ses confrères, j'en ai entendu un le dire, c'est un charlot. Moi, je ne suis pas épidémiologue. Je me dis, mais où est la vérité là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision? Alors, après, il y a tous les autres qui arrivent là-derrière à des fins politiciennes, les Yaka Faucon. Mélenchon, Le Pen, eux, c'est sûr que s'ils avaient été au pouvoir, ils auraient trouvé la bonne solution. Il n'y aurait pas eu un mort, mais c'est sûr, ça. Sauf que, moi, je ne sais pas s'il faut les applaudir, les gens qui nous gouvernent, mais en tous les cas, il ne faut pas leur cracher dessus, parce que c'était très, très compliqué.
Mais on pourrait le dire dans les deux sens. Quand il y a eu l'épidémie de sida, et Dieu sait si elle a fait des morts, on n'a pas mis des contraventions pour mise en danger de la vie d'autrui à ceux qui continuaient de faire l'amour sans préservatif.
Enfin, c'était plus compliqué à verbaliser, vous me le concéderez quand même. Hein.
Sans doute. Vous pensez que sinon, on l'aurait fait ?
S'il y a un flic dans chaque lit...
Mais qui aurait pu imaginer qu'un jour, on nous interdirait à tous de sortir, qu'on fermerait les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres. Là, on passe devant le théâtre Marigny, baigné par un beau soleil, tout est fermé encore. Et on ne sait pas quand ça ouvrira.
Mais c'est ça la grande difficulté, pardon, c'est justement, on était face à quelque chose de totalement inconnu. Donc, face à quelque chose d'inconnu, la réponse, elle est forcément originale, au sens premier du terme. C'est infiniment compliqué. Je suis très très énervé par les gens qui arrivent et qui réécrivent l'histoire de cette façon-là. Pas simple. Et alors en même temps, ces histoires de contravention, évidemment que ça emmerde tout le monde. Évidemment que faire ci, faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. En même temps, imaginons que rien n'ait été fait et qu'il y ait eu 100 000 morts. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Quelle est la responsabilité politique et morale ?
Ben, on aurait porté plainte contre le gouvernement parce qu'il n'a pas fait comme Singapour, ben, Taïwan, ben, Hong Kong. Il ne s'est pas préparé depuis 15 ans. Il n'a pas stocké les masques. Voilà.
Moi, je me souviens, tout le monde s'était foutu de Roselyne Bachelot. Absolument. Quand elle avait pris beaucoup de vaccins. C'était de l'argent jeté. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque ? Et aujourd'hui, on dit au fond, ah, mais c'est le contraire. Et puis, ces carences évidentes dans le monde hospitalier... carence de matériel, etc., 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 ça découle pas d'une décision instantanée de l'actuel gouvernement. Ce sont des économies qui ont été faites par différents gouvernements. Et c'est vrai qu'on a rogné sur le budget de l'hôpital. Alors la santé prend une tournure particulière et redevient importante à compter du moment où on est dans la pandémie. Mais avant, il y a des choses qui sont assez surprenantes. On applaudit les soignants. Moi, je m'en félicite, évidemment, parce qu'il y a des héros du quotidien parmi ces gens-là. Mais pendant des mois et des mois, ils ont réclamé une augmentation de salaire. Tout le monde s'en foutait. Ils prêchaient dans le désert. La réponse qui leur était apportée, c'était un silence assourdissant. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est compliqué de se mettre à la place de ceux qui nous gouvernent dans une situation comme celle-là.
La conclusion que vous pouvez en tirer, elle vous donne plutôt raison, c'est qu'on cherche des coupables. Au fond, on est une époque, une société qui cherche toujours des coupables, des responsables. Alors les coupables pour les uns, ce sont ceux qui ne respectent pas le confinement. Les coupables pour les autres, c'est de ne pas avoir stocké de masques.
Mais l'une des illustrations de l'hygiénisme ambiant dans lequel on vit, dans lequel malheureusement on se trouve, c'est qu'il faut effectivement des coupables. Voilà.
Et là aussi, j'en reviens...
À n'importe quel prix.
À l'épidémie de sida, qui nous a quand même tous terrorisés à une époque, on n'a pas cherché de coupables. Certains ont invoqué la débauche, la liberté sexuelle, en ont fait les responsables de l'épidémie, mais ça s'est arrêté là. On n'a pas judiciarisé, on n'a pas mis de contravention, on n'a pas porté plainte contre les gouvernements. Il y a eu l'affaire du sang contaminé, mais c'était très particulier.
Oui, mais c'est une évolution de toute notre société. C'est une évolution qui tente à ce qu'effectivement chaque situation doit avoir une explication rationnelle et donc potentiellement un coupable à châtier.
Vous, Éric Dupond-Moretti, en tant qu'avocat, vous voulez vraiment que le doute profite à l'accusé. Mais on est dans une époque qui laisse de moins en moins de place au doute. Vous l'avez remarqué ?
J'ai remarqué, oui. Ouais. D'ailleurs, maintenant, on rend la justice sur les réseaux sociaux, dans les médias, et même à la cérémonie des Césars.
Mais dans tous les domaines, vous le remarquerez, on a de moins en moins de doutes, qu'on parle d'économie, de politique, d'histoire, ou d'épidémie, on n'a plus de doutes.
Non, mais qu'on n'ait pas de doute en matière d'économie, moi je m'en fous un peu, vous avez votre théorie, j'ai la mienne, peu importe, voilà. Mais en matière de justice, pardonnez-moi, la justice sans doute, c'est une fois encore l'arbitraire.
Hein. On arrive au rond-point des Champs-Élysées, le temps de le traverser, propose qu'on écoute, bah tiens, une chanson qu'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui, à mon avis, c'est « Au voleur » de Charles Aznavour. On va l'écouter.
Mon front est moite, je tremble un peu. Ma tête éclate, je suis nerveux. J'ai l'impression qu'on me regarde. Et dans la nuit où naît la peur, que des doigts tendus me poignardent. Au voleur. Rien n'est trop sombre, rien n'est trop sûr. Je ne suis qu'ombre, je me fais mur. Comme un félin, je me déplace, raflant les objets de valeur. La gorge serrée par l'angoisse, au voleur. Parce qu'elle aime les fourrures, la vie facile et les plaisirs, les robes de haute couture que je ne pouvais lui offrir, de peur qu'un jour elle me quitte pour trouver tout cela ailleurs. J'ai choisi pour garder son cœur de tenter gros, de jouer vite au voleur. Chaque seconde semble une année, les bruits du monde sont amplifiés. Au loin, une horloge qui sonne, un craquement, une lueur font que je me fige et frissonne au voleur. Un vide immense se fait en moi, puis le silence reprend ses droits. Je fais les choses quatre à quatre, mais à chaque bruit, chaque heure, j'ai le cœur qui cesse de battre au voleur. À bout de nerfs, lorsque je rentre, aux heures grises du matin, les traits tirés, la peur au ventre, elle contemple mon butin, puis me faisant son œil de biche, elle murmure avec candeur qu'au fond l'argent n'a pas d'odeur et qu'après tout on prend qu'aux riches, aux voleurs. La nuit en disque de plus en plus, je prends des risques et mes vertus à lui faire une vie de rêve. Je vois soudain doubler ma peur à l'idée qu'un autre m'enlève ce bonheur qui est plus que ma vie, ne me laissant qu'un cri. Oh,
C'était Au voleur, Charles Aznavour en 1967. Une chanson qu'on ne pourrait plus écrire, à mon avis, parce, pour deux raisons. Hein. Un, parce qu'il se vante de sa propre turpitude. On dirait aujourd'hui qu'il donne le mauvais exemple et que ce n'est pas admissible. Et puis, il en rend responsable sa femme. Et
ça, c'est pire
plus,
encore.
Ça, c'en est plus.
Ça, par les temps qui courent, ça mérite presque une condamnation lourde.
Et puis, les choses qu'on fait par amour, c'est plus une circonstance atténuante.
C'est ça, quand il lui offre des robes de luxe, là, c'est sa faute à elle. C'est absolument insupportable. Oui.
On a à peu près le même âge, Éric Dupond-Moretti. J'ai l'impression qu'on a grandi tous les deux dans une société où la punition, la répression avait mauvaise presse. Ça a bien changé, ça. C'est peut-être pour ça que vous et peut-être...
C'est pour ça qu'on est ici ensemble, non,
en train non de... C'est qu'on a du mal à s'y faire.
Moi, je suis parfois désespéré. En même temps, je m'interdis le désespoir parce qu'il y a une espèce de nostalgie des vieux cons. C'était mieux avant, etc. Je ne veux pas être dans une espèce de passéisme. Mais je constate quand même que... D'abord, je crois que la pensée maintenant, en mode expéditif... Les réseaux sociaux est une catastrophe. Ça fédère. Vous savez ce que disait Pierre Dac, c'est que l'intelligence d'un groupe, c'est le QI du plus con divisé par le nombre de participants. Alors, c'est pas que ça, évidemment, les réseaux sociaux. Ça
les
pourrait
réseaux
être.
Sociaux, il y avait le café du commerce avant. Enfin,
Ah, mais d'accord. Mais le café du commerce, c'était pas la même résonance, parce que si vous disiez une connerie à 4 grammes au café du commerce, elle tombait par terre, elle était balayée, c'était fini. Maintenant, c'est ramassé, c'est empaqueté et c'est parfois mondialement diffusé. C'est ça la grande différence. Et évidemment, toutes les frustrations sont fédérées. Et la frustration devient un mode de pensée. Bon, ben, on est obligé de vivre avec ça. Moi, ça me chagrine un peu. Et puis le moindre de vos gestes, maintenant, fait l'objet de commentaires. On est dans la polémique absolue. En réalité, l'hypermoralisation de la société, ça nous conduit au manichéisme. C'est blanc ou noir, sans aucune nuance.
Et quand c'est noir, il faut punir. Et tout le monde trouve ça normal.
Et quand juste... c'est noir, ben c'est au nom. Vous savez, quand un juge fait une saloperie, ce qui arrive parfois... Et moi, je ne mets pas tous les juges dans le même panier. Je veux pas parler... de la justice, c'est la signature de ceux qui la rendent. Mais quand un juge fait une saloperie, c'est toujours pour une bonne raison. C'est toujours au nom de la morale publique. Mais si un journaliste, un avocat, un garagiste fait une saloperie... c'est pas du tout appréhendé de la même façon.
Bon, ça dépend. On peut, en tant que journaliste, du moment qu'on est du côté du bien, de la morale, on peut parfois jouer un peu avec la vérité. On vous en veut moins.
Oui. Pardon, vous avez raison.
Non, je dois reconnaître que ma profession n'est pas exempte de toute...
Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis pas que les journalistes sont parfaits, loin s'en faut. Ce que je dis, c'est que quand on est juge... Vous voyez, si un avocat fait une saloperie, c'est pour le compte de son client. Donc c'est un complice et un malhonnête. Si un juge fait une saloperie, c'est au nom de la morale publique. Ça n'a pas la même résonance. Pourtant, ça reste une saloperie.
Oui, c'est vrai.
Bon. Et puis, oui, on est dans une époque où il faut absolument se positionner. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Aucune nuance entre les deux. Et tout est sujet à polémique. Absolument tout. Il y a plus le moindre mot est interprété, peut-être sorti de son contexte. Et là... les gens se lèvent, il y a des gardiens du temple partout. Vous dites un truc, je sais pas, moi, vous dites qu'au fond, Polanski, il faut distinguer l'œuvre de l'homme. Alors là, on pousse des cris d'orfraie. Et la première qui pousse des cris d'orfraie est une jeune femme qui a tourné avec un réalisateur qui a eu des emmerdements judiciaires. C'est quand même extraordinaire. Et qui vous dit, de surcroît, qu'elle aime Céline. Distingue-t-elle entre l'homme... et l'œuvre. Point d'interrogation. Il n'y a pas plus antisémite que Céline. Et pourtant, elle le lit. Alors pourquoi on ne pourrait pas aller regarder un film de Polanski en sachant quand même qu'en France, il n'y a pas de procédure contre lui. Il y a des gens qui arrivent, qui disent « il m'a fait » et là encore, ça tient lieu de preuve. On est dans une drôle d'époque. Giscard, là, récemment, fait l'objet d'accusations pour agression sexuelle. 94 ans, ça arrive 2 ans après.
D'une journaliste, hein, allemande.
Oui, bah, c'est pas parce qu'elle est journaliste qu'elle dit vrai. Moi, j'en sais rien, c'est peut-être vrai. Peut-être que Giscard a raison, peut-être qu'elle a raison. Mais enfin, pour le brûler au pilori médiatique, encore faut-il qu'on ait recueilli une preuve. Et d'ailleurs, on ne peut même pas brûler au pilori médiatique, parce que c'est à la justice de trancher avec des règles qui sont celles que nous avons élaborées depuis des millénaires et qui honorent notre civilisation.
Puisque vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président de la République, il était allé en prison, il avait serré la main, on s'en souvient, de détenus qui n'avaient pas encore été condamnés, d'ailleurs, hein, avait-il dit, mais ça avait beaucoup choqué. Néanmoins, c'est une époque...
Il s'est bien rattrapé parce qu'il n'a pas gracié Ranucci, en dépit du fait qu'il est annoncé partout... Attendez, on n'est pas dans le geste barrière. Reculez-vous, monsieur Taddeï.
En dépit du fait, la musique, c'est les Champs-Élysées, c'est normal.
En dépit du fait qu'il est annoncé qu'il était contre la peine de mort. Bon, comprenne qui pourra.
Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, on s'intéressait encore au sort des prisonniers.
Bien sûr.
À la prison, aux conditions. Oui. Aujourd'hui, plus du tout. Hein. On estime même qu'il bénéficie... de trop bonnes conditions de détention. Une majorité de Français dans les sondages le répètent, alors qu'on sait très bien que nos prisons sont surchargées, ce que vous disiez tout à l'heure. Pourtant, on trouve que c'est encore trop bien.
Mais il y a quelques centaines de mètres de cela, je vous ai dit, et je peux vous le redire, que si on détient un chien dans des conditions contraires aux directives de la DSV, on est susceptible de voir se lever... des tas de voix, et quand on détient des hommes dans les conditions dans lesquelles on les détient, personne ne dit grand-chose, au fond. Non, on s'est habitué à tout ça. C'est une société qui est très dure, très très dure.
On se retrouve dans un instant avec Éric Dupond-Moretti.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous remontons les Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe, avec Éric Dupond-Moretti. Nous vivons dans une société très très dure, disiez-vous il y a un instant. Mais on pourrait aussi retourner ça. On vit dans une société peut-être plus douce, ne serait-ce que parce qu'elle a préféré confiner sa population, mettre l'économie à l'arrêt plutôt que de sacrifier des vies humaines. Et si l'on a cette tendance à vouloir punir les méchants, c'est aussi parce qu'on sait... on s'est peut-être davantage intéressé aux victimes. Ça aussi, c'est une tendance générale. Pas d'impunité pour ceux qui ont fait du mal.
Alors, c'est une question complexe. Bon, d'abord, vous évoquez le fait qu'on est relégué la rigueur économique au second plan. Oui, c'est vrai. On nous disait depuis des années que la rigueur budgétaire nous imposait un certain nombre de sacrifices.
Et qu'il n'y avait pas d'alternative.
Qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'allais le dire. Et puis on a choisi, pour sauver des vies, de penser différemment. Dont acte. Pour autant, nous étions sur la situation carcérale. Pardon de vous dire que moi j'aime les victimes, mais je n'aime pas l'air victimaire. J'ai de la compassion pour les victimes. Mais je n'aime pas l'exploitation politicienne que l'on a fait des victimes. L'exploitation judiciaire que l'on tire des victimes. Le fait que, par exemple, le fait d'être plaignant ne signifie pas forcément... le fait d'être victime, qu'il y a tout un mécanisme qui doit se mettre en place, qui est le mécanisme probatoire. C'est tout ça que je dénonce. Et puis, c'est vrai qu'à des fins politiciennes, on nous a raconté qu'il fallait prendre en considération les victimes. Alors ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, les victimes, on ne les prenait pas en considération. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a basculé dans un excès inverse aujourd'hui. Et moi, je dis que maintenir les victimes dans un statut victimaire, en réalité, c'est interdire aux victimes la résilience. Le devoir d'une victime, c'est de sortir de son statut de victime. Alors, j'ai bien conscience humainement que c'est bien plus difficile à faire qu'à dire. Mais pour autant, quand on maintient les victimes dans ce statut victimaire, on les emprisonne dans ce statut de façon définitive et on leur interdit autre chose. Pardon, mais ça aussi, c'est une forme d'hygiénisme que je trouve insupportable. Et sous prétexte de faire du bien aux victimes, je pense qu'on leur fait du mal. D'ailleurs, y a des magistrats, il y a des psychologues, des psychiatres, des sociologues qui disent ça. Bien sûr, je ne suis pas le seul à le dire. Et ça se transforme dans une pensée résumée, forcément caricaturale, en « Ah, il n'aime pas les victimes ». Mais j'en ai défendu des centaines de victimes. Et j'en défendrai encore. Avec opiniâtreté, avec tout ce que je sais faire. Bien sûr, mais pas n'importe comment. Quand dans un procès, vous vous rendez compte que dès qu'une plaignante a parlé, le procès est plié et qu'on n'a même pas envie d'entendre la voix de celui qui se défend, Là, on n'est pas dans la justice, on est dans une espèce de confiscation de la parole d'une plaignante que l'on sacralise.
Reconnaissez que ce sera pareil si c'est un plaignant qui accuse une femme.
Je ne suis pas sûr que ce soit pareil.
Ah bon ?
Oui.
J'en reviens toujours à la même chose. Je pense toujours qu'il faut comparer avec le passé pour comprendre le présent. Et on le disait tout à l'heure, on s'identifiait autrefois aux prisonniers. Dans les films aussi, il y avait beaucoup de films qui reposaient sur des gens qui étaient en prison, et pas forcément des innocents d'ailleurs. Et puis on prenait fait et cause pour eux. On les plaignait pour leurs conditions de détention. On haletait si jamais ils s'évadaient. On était vraiment avec eux. Aujourd'hui, on s'identifie.
Ils étaient incarnés par Delon, par Belmondo.
Ça aidait sans doute.
Mais oui, ça aidait forcément. Et oui.
Mais aujourd'hui, c'est pas sûr que les vedettes d'aujourd'hui accepteraient d'incarner ces personnages. Ils veulent incarner des victimes eux aussi. On s'identifie aux victimes. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'identifiait aux soldats qui combattaient. Puis après la guerre, on s'est identifié aux résistants qui avaient sauvé l'honneur. Aujourd'hui, on s'identifie aux civils qui fuyaient sous les bombardements ou que l'on persécutait alors qu'ils n'avaient rien fait. Là aussi, on a changé sur ce plan. Les combattants sont peut-être trop éloignés de nous. Ils nous paraissent suspects. Alors que la victime nous ressemble comme un frère ou comme une sœur.
Oui, c'est juste ce que vous dites. Ça peut être une des explications à cette ère victimaire que nous traversons. Puis quand même, il y a eu aussi... vous savez, il y a une exploitation, ce qu'on a appelé dans certains procès la dictature de l'émotion. C'est-à-dire que ce qui nous touche, a priori, c'est la victime. Vous apprenez qu'une jeune femme s'est fait tuer. Vous lisez ça dans le journal. Avant même de connaître l'affaire plus en détail, votre cœur bat d'abord pour elle. C'est elle qui vous touche en premier. Ensuite, un type est arrêté. D'accord ? Mais lui, il doit conquérir sa place judiciaire parce que, évidemment, il a un handicap à combler, si j'ose dire. Le cœur des juges bat d'abord pour les victimes. Et ça, c'est bien normal. Mais ensuite, si on veut un vrai processus judiciaire, il faut qu'on n'en reste pas à ses apparences. Il faut qu'on aille au-delà et qu'il y ait un véritable travail. Or, tout, aujourd'hui, nous conduit à sacraliser la parole de la victime. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tas de gens qui sont condamnés sur les réseaux sociaux, sur le bûcher médiatique, avant même d'avoir rencontré un juge.
Et ces gens-là, vous vous retrouvez en face d'eux, vous, en tant qu'avocat, et vous vous répétez, vous dites toujours que c'est votre honneur, votre fierté de les défendre. Ce que souvent, on a du mal à comprendre. Il y a une chanson de Serge Reggiani que j'aime beaucoup... Si tu me payes un verre, vous vous souvenez de cette chanson ? J'ai l'impression qu'elle traduit assez bien ce que c'est que le métier d'avocat.
Oui, c'est vrai. C'est une chanson, ce sont des paroles qui ont été écrites par Bernard Dimet. C'est en réalité une prostituée qui rencontre un type et qui lui dit ce que l'on va entendre dans quelques secondes.
Ou un alcoolo. Si c'est un homme qui la chante, comme Reggiani, à ce moment-là, on se dit que c'est un alcoolo. Si c'est une femme, comme Isabelle Boulay, on se dit que c'est une prostituée.
Oui, mais le texte initial, c'est une prostituée.
Ah oui, vraiment.
Oui. Alors en fait, évidemment, mais le piment n'est pas dans la toile, il est dans l'œil qui la regarde. Et c'est vrai aussi pour une chanson. Mais le texte original, c'est ça. C'est une prostituée qui rencontre un type qui lui dit « Moi, je te demanderai rien du tout. » Ni d'où tu viens, ni où tu vas,
si
ta femme est jolie, si t'en as une, si tu sors de cabane ou pas. Et c'est la tolérance, c'est une chanson, c'est pour moi l'hymne à la tolérance.
On va l'écouter.
Tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne. Je ne te dirai rien, je te contemplerai. Nous dirons quelques mots en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu. Je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai des sourires de gamin. J'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirai de vérité première, il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrai pas de n'être rien du tout, je ne suis rien qui vaille. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami au moins quelques secondes. Nous referons le monde aussi en mettre debout. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'emporte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde. Alors paye ton verre et je t'aimerai bien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde.
C'était Serge Reggiani en 1975 qui chantait « Si tu me payes un verre ». Je me dis c'est un peu ça le métier d'avocat, parce qu'on est prêt à défendre l'autre comme un frère, quoi qu'il ait fait. On se met à sa place. Et quand Serge Reggiani chante « Ne jamais juger le bon ni la canaille », j'imagine que c'est ce que vous faites aussi. C'est un métier, juge, c'est pas le vôtre.
Non, c'est pas le mien du tout, non. Et vous avez tout compris. Et en même temps, cette chanson, elle nous rappelle qu'il y a en chacun d'entre nous le bon et la canaille, la lumière et l'ombre.
On se retrouve dans un instant avec Éric Dupond-Moretti. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré avec Éric Dupond-Moretti. On continue notre balade. Autour de son bureau.
Notre footing.
Autour de son bureau. Il y a du monde, mais sans excès. Paris reprend un peu de couleur. Bon, c'est comme ça que vous le voyez aussi ?
Le ciel est bleu. Je ne sais pas, Paris reprend un peu de couleur. Moi, je trouve qu'il n'y a personne. Mais vous avez vécu ici la fin du... Le confinement et la fin du confinement. Moi, non. Donc, je suis arrivé hier, en réalité. Et je trouve que Paris ne ressemble pas au Paris que je connais.
Certes non, il y a beaucoup de vitrines fermées, il n'y a aucun restaurant,
alors,
aucun
disons
bar.
Que Paris reprend des couleurs, mais ce sont des couleurs pastel pour le moment.
Europe 1, 11h30. Frédéric Taddeï.
Vous avez écumé une scène de théâtre en jouant à la barre, seul en scène. Pourquoi avez-vous fait ça, profondément ?
Pendant l'affaire Mera, j'ai reçu des tas de lettres.
Je rappelle que vous défendiez son frère.
Abdelkader Mera, hein. J'ai reçu des tas de lettres de menaces, etc. Bon. Puis j'ai été interviewé par un grand journaliste du service public, qui m'a reproché à un moment d'avoir dit de la mère de Mera que c'était une mère. J'ai dû lui répondre que ce n'était pas une vache et qu'elle n'avait pas vêlé. C'est dire le niveau d'acrimonie, de haine qu'il y avait autour de cette histoire. Et moi, pardon, mais j'étais très fier de défendre cet homme parce que je ne veux pas d'une justice qui ressemble à la justice des islamos, moi. Où on torture, on coupe les têtes sans procès, sans avocat, sans contradictoire. Et donc, il me paraissait essentiel que cet homme soit défendu, parce que le défendre, c'était au fond défendre nos principes et nous défendre, nous. Et l'idée d'une justice démocratique que l'on peut avoir au cœur les uns et les autres. Et il y avait une telle somme d'incompréhension qu'on a décidé d'expliquer tout ça. En réalité, les Français, ils ne savent pas ce que c'est qu'un avocat. Ils détestent les avocats à 80%. Mais ils aiment leur avocat quand ils en ont besoin. Et puis, j'ai reçu une lettre bouleversante d'un grand rabbin qui m'a dit que, dans les textes sacrés, il avait trouvé la justification qu'un avocat plaide pour cet homme. Pour cet homme-là, incarnation du mal absolu. Et puis, je me suis dit que, voilà, c'était mon devoir d'y aller. Même s'il y avait beaucoup de coups à prendre, j'en ai pris. J'en ai donné quelques-uns, mais j'en ai pris beaucoup. Et je pensais qu'il était nécessaire d'expliquer ça. Et un soir, au bord de la Méditerranée, avec deux potes, Adrien Racah, mon co-auteur, et Philippe Lelouch.
Bah, t'étais en scène.
On avait un peu trop bu, comme quoi l'alcool n'a pas que des inconvénients. Et on a dit, mais on devrait mettre ça en scène. Évidemment, c'était une promesse de nuit qui ne devait pas voir le jour. Et le moins alcoolisé des trois, le lendemain, a rappelé les deux autres pour dire « Coucou, on met ça en route ». Et c'est comme ça que c'est venu l'idée.
Mais vous avez, on dit souvent que l'avocat est un acteur. Vous-même, vous avez dit qu'une cour d'assises, c'est un théâtre.
Bien sûr.
Peut-être, mais il y a quand même quelque chose de grave en jeu. Quand on est avocat, c'est la liberté de son client, son honneur. C'est la différence entre 20 ans de prison et sortir tout de suite la tête haute au théâtre. Qu'est-ce qui est en jeu ?
Mais d'abord, je veux m'expliquer là-dessus. Avant même que je puisse penser dans ma vie faire un peu de cinéma ou aller au théâtre, j'ai toujours dit qu'il y avait chez l'avocat quelque chose de l'acteur. Mais chez le procureur aussi.
Oui, chez tout le juge
aussi. Vous avez quand même constaté qu'on porte tous des costumes, qu'on est sur une scène particulière avec des colonnes, qu'il y a même une sonnerie pour annoncer l'arrivée des acteurs. Et puis, dans tout ce qu'on fait au quotidien, il y a... Dans la forme, je parle là de la forme, il y a évidemment quelque chose de l'ordre dès qu'on veut t'expliquer quelque chose, même quand on est deux au bord d'un zinc, on y met de l'ordre de quelque chose de l'ordre de la forme. Et cette forme-là, ça s'appelle la théâtralité. Donc, faut pas se le cacher, ça. Mais en même temps, ça n'exclut pas la sincérité. Puis je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes insincère, inauthentique, ça se sent tout de suite. Donc, bien sûr que la forme, elle est assez particulière. Bien sûr qu'elle s'inscrit dans quelque chose qui ressemble au jeu de l'acteur. Mais le fond, c'est le fond. Puis là, on ne peut pas tricher. C'est pas possible. Acteur, ça ne veut pas dire tricheur. Ça veut dire celui qui présente les choses sous une certaine forme.
Vous avez raison. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enjeu. Et l'enjeu pour l'acteur, pour Éric Dupond-Moretti, acteur, quand il est sur la scène d'un théâtre et qu'il dit son texte à la barre, ou Éric Dupond-Moretti, avocat dans une cour d'assises, qui plaide pour un client qui risque 20 ans de prison, ça n'est pas la même chose. L'enjeu n'est pas le même. On pourrait dire pour un ministre, quand il prend une décision, l'enjeu n'est pas le même que moi quand je prends une décision qui ne concerne souvent que moi.
Bien sûr, ce que vous
c'est
risquez.
Là où je me pose la question, pour vous, l'enjeu, c'était quoi ? Vous qui êtes habitué.
Je vais vous le dire, c'est pas compliqué. Ce que vous risquez au théâtre, c'est de recevoir une caisse de tomates. les lazis, les colibés, comme le chantait Aznavour d'ailleurs. Au mieux, c'est les applaudissements. Au pire, c'est la caisse de tomates. À l'audience, évidemment, vous avez une responsabilité. C'est celle de la... Si vous êtes en défense de la liberté d'un homme. Et de ce point de vue, les enjeux sont à des années-lumière les uns des autres.
Mais en même temps, il doit y avoir un autre enjeu pour vous quand vous êtes au théâtre. C'est convaincre. Vous l'avez dit, les Français connaissent mal le métier d'avocat. Ils ne l'aiment pas. D'une certaine manière, vous plaidiez...
Il y a ça, puis il y a autre chose.
Pour une cause.
Oui. Mais, et je vais aller au bout de cette confidence vers laquelle vous m'amenez, à pas lent, mais à pas sûr. En réalité, il y a autre chose que ça. Bien sûr qu'on est avocat si on n'aime pas l'injustice. Mais il y a aussi une part d'investissement personnel, égotique, narcissique. Sinon, on ne choisit pas un métier d'expression orale, d'expression publique. C'est une évidence. Donc ça, on le retrouve au théâtre comme on le retrouve à la barre. Ben, il faut simplement avoir l'honnêteté de le dire. Moi, le mec qui me dit « je suis avocat que parce que j'aime pas l'injustice », c'est pas vrai, il en manque un petit bout, là. Vous êtes pas honnête avec vous-même, vous ne vous dites pas les choses, ou surtout, vous ne voulez pas les dire parce que vous pensez que ça n'est pas noble. Ben, c'est la part d'ombre et de lumière, vous voyez.
Oh, c'est noble d'être un sauveur, un justicier.
Ça, oui, d'accord. Mais le faire aussi pour satisfaire son ego, ça l'est moins. Mais c'est une réalité. Mais vous aussi, d'ailleurs, monsieur Frédéric Tadé, qui souriez, là, vous faites pas ce métier d'expression publique par hasard. Il
n'y
a pas de hasard dans la vie. Il faut seulement dire les choses, voilà.
Ben, je vais y réfléchir pendant les infos. On se retrouve juste après avec Éric Dupond-Moretti.
Frédéric Tadéhi sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Frédéric Tadéhi.
Nous sommes aujourd'hui en balade dans les rues de Paris avec... le plus célèbre avocat de France, c'est Éric Dupond-Moretti. en plein déconfinement. Éric Dupond-Moretti, vous disiez, les avocats disent faire ce métier par amour de la justice, et vous expliquez que ça n'était jamais suffisant, il y avait autre chose. Mais justement, aujourd'hui que la morale est devenue plus importante que la justice, au fond, on se demande tout le temps qu'est-ce qui est juste. Vous le savez, vous avez l'impression, dans votre intime conviction, que vous savez ce qui est juste?
J'ai envie de vous dire... oui, oui et non. Mais c'est quelque chose de très intuitif, donc quelque chose de très relatif. C'est pour ça que moi, j'aurais jamais pu être juge. Mais regardez, certaines choses qui étaient considérées autrefois comme des infractions anodines sont aujourd'hui sur le podium de la gravité. Je pense à la fraude fiscale, par exemple.
Jérôme Cahuzac, que vous avez défendu.
Jérôme Cahuzac. Ou
Balkany, que vous avez défendu aussi.
Bon, autrefois, la fraude fiscale, moi, quand j'étais gamin, on appelait ça le sport national. Ça faisait presque marrer tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu l'infraction des infractions. Et alors, dans son jugement contre Balkany, le tribunal, en première instance, écrit que « Tenez-vous bien, si vous me permettez cette familiarité, Balkany a déchiré le pacte républicain. » Et moi, je dis que coller 9 ans à un type pour fraude fiscale, c'est de la part des juges un déchirement du pacte républicain.
Mais rappelez-vous qu'au début des années 70, les Rolling Stones étaient venus se réfugier en France parce qu'ils trouvaient que la pression fiscale était trop forte de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Hein. Donc les choses aussi ont changé.
Oui, mais on pourrait surmultiplier les exemples. À l'audience, d'ailleurs, je me suis amusé à comparer les 9 ans... 11 ans avaient été requis en première instance. Hein. C'est 11 ans avec des peines criminelles où le sang a coulé. Puis je suis allé faire un tour aussi du côté de toutes les professions que nous connaissons, qui sont les professions que l'on côtoie au quotidien, pour y voir quel était le taux de fraude fiscale. Bon, Balkany, il est le bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est une ancienne époque jugée par des juges modernes.
Et puis c'est aussi parce que l'impunité aujourd'hui nous semble injuste. C'est ça qui nous semble injuste,
sans doute,
c'est l'impunité.
Moi, je n'ai jamais plaidé qu'il ne devait pas être condamné. Mais je me méfie de ces courants un peu populistes qui parfois dirigent la justice. La justice, c'est beaucoup de sagesse et ce n'est pas des emportements. Fût-il justifié
à vous entendre,
par la morale publique.
Dans les interviews, notamment, vous dites qu'en fait, on peut se faire dénoncer, insulter et peut-être un jour condamner parce qu'on a regardé les jambes d'une fille, qu'on l'a sifflé. Là, on peut déjà être condamné parce qu'on a sifflé les jambes d'une fille.
C'est ça, ouais.
Mais si l'on aime la corrida ou la chasse, si on boit du vin à table, si on porte le voile ou que l'on prend l'avion, parce que de plus en plus, quand vous dites que vous prenez l'avion...
On
vous insulte sur les réseaux sociaux.
Oui, ben voilà,
si l'on fume des cigarettes,
tout
si l'on aime Lolita de Nabokov ou les tableaux de Balthus, on est suspect. Un jour, on sera peut-être condamné. Et vous devrez nous défendre.
Tout est sujet à polémique. Vous parlez de Balthus. Alors, voilà, on vient de découvrir l'aspect sombre de Balthus. Il serait un pédophile, ses œuvres.
Il n'a toujours peint des très jeunes filles.
D'accord.
Plutôt dans des positions suggestives. Mais c'est ce qui a fait son succès.
D'accord. Mais est-ce que l'on peut comprendre qu'un artiste peut aussi exprimer un fantasme sans pour autant le réaliser? Ou est-ce que un homme est lié à son œuvre de façon irrémédiable au point que l'on doit forcément confondre les deux? On devient dingue, non? Non, mais on devient dingue.
Mais en même temps, comment ne pas se soumettre à l'opinion? Là aussi, on risque de devenir dingue.
Bah, il faut résister.
Peut-être le seul qui pense ce qu'il pense.
Mais non, le seul, pas du tout. Enfin, j'espère
non, je
ne
parlais
que
pas
non.
De vous. Mais on peut avoir cette impression quand on se retrouve isolé ou insulté ou injurié, ce qui vous est arrivé souvent.
Oui, mais vous avez aussi un certain nombre de minorités extrêmement actives qui font beaucoup de mousse et qui donnent à penser que... Ils incarnent à eux seuls une vision donnée des choses et de l'ordre moral. Mais il y a des tas de gens...
Mais autrefois, souvenez-vous, c'était la morale des honnêtes gens, du plus grand nombre de la norme qui s'imposait. Et les minorités n'avaient pas la parole.
Vous aimez Balthus. Et puis un beau jour, quelqu'un vient vous dire « Mais regardez un peu ce qu'il a peint. » Est-ce que pour autant, ça altère son œuvre artistique ? Je vous donne un autre exemple. Je me retrouve sur un plateau de télévision avec une féministe acharnée. Elle veut absolument qu'on n'aille plus voir Quentin en spectacle. Je lui dis, madame, pardonnez-moi.
Bertrand Quentin. Hein.
Je lui dis, madame, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas interdire à des gens d'y aller. Ceux qui ont envie d'y aller, y vont. Ça s'appelle la liberté. Ceux qui n'ont pas envie d'y aller, pour les raisons que vous évoquez, et pourquoi pas, n'y vont pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, elle envisage, dans une espèce de diatribe terrifiante à mes yeux, d'interdire le rock parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles dans le milieu du rock. Et si on apprend demain qu'il y a eu des agressions sexuelles chez des boulangers, va-t-on interdire la boulangerie ? C'est tous ces trucs-là qui deviennent dingues, absolument dingues. Quand on regarde ça de près, on se dit, mais au secours, on marche sur la tête.
On fait une pause, on se retrouve avec Éric Dupond-Moretti, rue La Boétie. Nous sommes presque de retour. Vous avez rejoint l'équipe de défense internationale de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est emprisonné en Grande-Bretagne et menacé d'extradition aux États-Unis, où il est accusé d'espionnage. Il risque 175 ans de prison. Qu'est-ce que vous espérez obtenir ? Que la France lui donne l'asile politique ?
J'ai demandé au président de la République qu'il examine cette question. Le confinement qui nous a été imposé m'a interdit d'aller plus avant dans cette démarche. Je la réitérerai bien sûr dès que les choses seront possibles. Il est effectivement... On peut critiquer un certain nombre de choses, en particulier faites au nom de la morale publique, selon lui.
Julian Assange,
oui, bien sûr,
et
bien
de la
sûr.
Transparence.
Bien sûr, et de la transparence. Mais pour autant, ça ne vaut pas 175 ans de prison, ce que les Américains, et en réalité l'administration Trump, a très envie de lui voir infliger.
C'est, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que lui invoque le journalisme quand d'autres lui répondent espionnage. Ce que font les dictatures en général. Hein. En
oui,
URSS,
voilà.
C'était comme ça. En Iran, on peut être accusé d'espionnage quand on est journaliste.
Je suis assez d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a une association et des associations de journalistes qui le soutiennent et qui disent qu'effectivement... moi, vous savez à quel point je déteste Mediapart, mais si on envisageait... De traiter monsieur Plenel de ce sort funeste, je serai le premier à le défendre, évidemment.
Vous invoquez un précédent, d'ailleurs, vous citez l'ayatollah Khomeini qui avait été...
Oui.
On s'en souvient, à qui on avait donné...
Oui.
Valéry Giscard d'Estaing lui avait donné l'asile politique,
oui.
Il était à Neuf-le-Château.
Oui.
Mais j'avais posé la question à Valéry Giscard d'Estaing qui m'avait dit qu'il l'avait accordé à la demande du Shah d'Iran, en accord avec lui, parce que ça permettait de surveiller Khomeini à l'époque. Ça peut être un argument que vous pouvez donner au président de la République. Ça permettra de surveiller Assange.
M'accorderait qu'il y a eu quelques failles dans la surveillance après, quand même.
Ah bah, il se trouve que le chat est tombé et que Khomeini est reparti de chez nous directement à Téhéran.
C'est ça. Mais là, il n'y a pas du tout le même risque. Ce qu'on souhaite, nous, évidemment, d'abord, cet homme est en train de perdre sa santé, vraiment. Hein. Moi, je l'ai rencontré à Londres. C'est extrêmement inquiétant. Il y a des années maintenant qu'il est détenu. Le traitement qui lui est réservé est un traitement absolument scandaleux. Et on va intenter très prochainement, d'ailleurs, avec des confrères belges, une action devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Entre-temps, Julian Assange est quand même devenu un héros pour bon nombre de gens sur
oui,
toute la
sûr.
Planète.
Oui.
Pas seulement lui.
Oui.
Manning, qui s'appelait Bradley au départ et qui est devenu...
Qui a été gracié par Obama,
Chelsea,
vous savez.
Qui a été gracié par Obama.
Qui a été réincarcéré par Trump.
Parce qu'elle refusait de témoigner contre le Wikileaks.
Exactement, elle refuse de témoigner contre Julian Assange. Oui.
Et puis il y a Edward Snowden qui est toujours
bien sûr.
En exil en Russie, où on lui a
et
donné
en même temps,
l'asile politique.
On va rappeler, puisque nous sommes en France, dans les rues de Paris, que grâce à Julian Assange, on sait par exemple... Et là, on n'est pas dans le domaine de la transparence et de la vie privée. Mais on sait, par exemple, que l'ambassade des États-Unis a écouté l'Élysée. C'est grâce à lui qu'on sait ça. Et c'est quand même pas rien.
On sait aussi que quand Jacques Chirac a refusé de suivre les Américains dans l'invasion irakienne, des hommes politiques qui voulaient devenir président de la République sont allés à l'ambassade des États-Unis et ont dit, vous savez, avec moi, ça aurait été différent, on serait venus. Ils s'appelaient Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça, c'est Wikileaks qui l'a révélé.
Et on sait également... que les Américains ont commis des crimes de guerre.
Mais qui n'en commet pas quand on fait la guerre ? C'est rare de ne pas commettre de crimes de guerre.
Oui, mais qui le reconnaît ?
Ça veut dire que les États, au fond, sont solidaires les uns avec les autres pour ne pas recueillir, protéger, défendre quelqu'un comme Julian Assange. Au fond, il est l'ennemi de tous les États.
Il est l'ennemi de tous les États, mais il y a quand même quelques personnalités en France qui se lèvent pour dire qu'en dépit de ce qu'on pourrait lui reprocher dans le domaine de la transparence relative à la vie privée, cet homme-là a fait un boulot de journaliste et qu'il a permis à tous nos concitoyens de connaître un certain nombre de choses essentielles, me semble-t-il, dans une démocratie.
Mais que les États ne veulent pas tellement que les citoyens connaissent.
Non, mais c'est compliqué parce que ensuite chaque État excipe de la souveraineté judiciaire qui est la sienne. Et je vois mal qu'un de nos pays puisse donner à M. Trump des leçons en quelque matière que ce soit.
Avant qu'on arrive à votre bureau, Éric Dupond-Moretti, je vous disais qu'on aurait pu écouter Un garçon triste, une chanson que vous a dédiée votre compagne, la chanteuse canadienne Isabelle Boulay.
C'est un garçon triste qui connaît bien l'attente, c'est un gosse oublié. Oui, c'est un garçon triste et son cœur de brocante à prendre ou à laisser. Comme les garçons tristes, il invente, il résiste pour se faire remarquer. Comme si la tristesse, cette mauvaise sorcière, l'avait fait s'envoler. Et comme les garçons tristes, il dessine sans répit. De quoi se consoler? Un frisson, un délice, un instant, un abri. Quelque chose à rêver. J'aime ce garçon triste, comme à chaque sourire, il semble s'excuser. J'aime comme il sait croire, comme il sait s'éblouir simplement d'exister. Je chante un garçon triste qui se donne des grands airs pour ne pas se noyer. Comme tous les garçons tristes, il aime jouer au cador, jouer au roi du quartier. Et puis ce garçon triste est entré dans ma vie. Il a tout dérangé. Mes rêves et leur esquisse, mes souvenirs, mes délires. Il a tout emporté. C'est pour un garçon triste que j'ai posé mes armes doucement à ses pieds. Et pour ce garçon triste, je suis prête à souffrir, je suis prête à trembler. Il est comme une promesse, il est comme un vacarme, il est mon naufragé. Il est ma seule tendresse, mon amour, mon alarme, mon enfant, mon péché. Il est comme une promesse, il est comme un vacarme ou comme un naufragé. Il est ma seule tendresse, mon amour, mon alarme, mon prince et mon péché.
C'était Isabelle Boulay chantant Un garçon triste. C'est vrai qu'on peut vous reconnaître assez facilement quand on écoute cette chanson. Et puis après, j'ai regardé, la musique est de Julien Clerc, les paroles sont de Carla Bruni. Je me suis dit, mais au fond, ça se trouve, Carla parle de Nicolas Sarkozy.
Ben, je crois que c'est le cas, ouais. Mais peut-être deux garçons tristes sur
sans
la
doute,
planète, non?
Mais
et d'ailleurs,
dit,
je pense qu'on n'est pas que deux.
Carla Bruni aurait pu dire exactement la même chose de Nicolas Sarkozy.
Et je pense qu'elle l'a dit. Nicolas Sarkozy, en tous les cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises. A dit que cette chanson avait été écrite pour lui.
Et pourtant,
mais
quand on l'écoute, on vous reconnaît.
Mais oui, mais parce que c'est pas le seul garçon triste. Je partage cela avec Nicolas Sarkozy.
Voilà. Vous le connaissez, Nicolas Sarkozy ?
Oui.
Quel rapport vous avez avec les présidents de la République ? Vous êtes un anarchiste, épicurien, mais un anarchiste.
Moi, je ne suis pas un visiteur du vendredi, voyez-vous.
Et vous ne venez pas de demander de grâce non plus, puisque vous dites qu'ils n'en accordent plus. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ils en accordent encore.
Non,
même
mais...
s'ils n'amnistient plus au moment de leur élection.
Oui, mais vous savez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis, et je ne prends pas Emmanuel Macron pour un imbécile, loin s'en faut. Et je pense que cette période de confinement pouvait être l'occasion de repenser la condition carcérale et d'envisager... Je vais vous dire autre chose d'ailleurs. Si vous utilisez cette prérogative régalienne, que vous êtes président de la République, vous vous réservez une petite bouée de sauvetage si demain les prisons explosent. Pourquoi pas ? C'est très utile, ça. Dire qu'on n'utilisera plus la grâce, ce que n'a pas dit d'ailleurs Emmanuel Macron, mais c'était, me semble-t-il, l'occasion de l'utiliser là maintenant. Il assumait le fait... Au fond, vous nous avez rappelé tout à l'heure que l'humain avait été remis au premier plan par rapport à la rigueur budgétaire, au pourcentage de déficit autorisé, etc. Ah ouais, y avait aussi les détenus, on pouvait envisager ça et expliquer aux gens un certain nombre de choses. Quitte à utiliser des métaphores comme Robinson Crusoé, le fromage et le jambon, ce qu'a fait notre président de la République. C'est pas très compliqué de dire ces choses.
Je vous raccompagne jusqu'à votre bureau, avec Dupond-Moretti, on est juste devant la porte, on monte.
Europe 1, 11h30, Frédéric Tabéhi.
Nous voilà de retour dans votre bureau, Éric Dupond-Moretti. Un bureau assez solennel, assez... Bon, il y a beaucoup de photos, il y a quelques faucons, des faux faucons, hein, bien entendu. Des
quelques statues, vrais aussi de temps en temps, oui, évidemment. Voilà. Je sais si que c'est vous... ça que vous voulez me faire dire.
Non, du tout, je voulais regarder... tout ce qui vous entoure, il y a une selle, on peut mettre sur un cheval,
ouais.
Il y a des fauteuils en cuir, tout ça est assez...
cosy.
Oui, j'allais dire solennel.
Solennel, oui, si vous voulez, oui. Ouais. C'est mon côté rigoriste.
Le bureau lui-même est très ancien, non ? C'est quoi, c'est du Louis XV ?
Oui.
Ouais. Oui, ça vous va bien, hein ?
J'espère. Écoutez, je suis très sensible à ce compliment qui me fait rosir. Les auditeurs ne le verront pas.
Il y a beaucoup d'encriers, tous différents.
Ah,
ce
oui,
sont
oui.
les encres qui sont différentes ou...
Oui, j'adore les stylos-plumes. Et j'aime, oui, ça, c'est magnifique. Ça, c'est des verts, des ocres, des rouges.
Et vous les utilisez tous ?
Oui, bien sûr, oui.
Y
oui.
compris professionnellement ?
Ah oui, surtout, oui.
Il vous arrive d'écrire à l'encre rouge ?
Oui, 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 oui.
Les condamnations seulement.
Ouais.
Mais la presse aime, on va laisser passer la sirène. La presse aime à compter les acquittements dont vous seriez à l'origine. Et les noms, les chiffres varient très très souvent. Vous avez remarqué, là certains annoncent que vous avez fêté votre. Enfin, pas fêté parce que vous ne les fêtez pas, mais que. Vous
si, avez... si, je l'ai fête, bien sûr. Oui, oui, c'est une fête pour moi, oui.
Vous auriez obtenu votre 145e acquittement juste au mois de février avant le confinement.
Oui, c'est vrai.
J'ai vu que déjà le Parisien d'il y a un an disait que vous en étiez à 146. Donc, est-ce que quelqu'un tient cette comptabilité?
Oui, bien sûr, c'est Lorraine, mon assistante, qui tient cette comptabilité scrupuleusement, voilà.
Mais en même temps, j'imagine que ce sont les condamnations qui doivent vous peser bien plus que le
alors,
reste.
Là, il y a une véritable forme d'injustice. C'est-à-dire que la joie qu'on ressent après un acquittement, elle est évidemment extrêmement intense, mais elle est très éphémère. Mais le mal-être que l'on a après une condamnation, surtout si on estime qu'elle est injuste, parce qu'au fond, il y a des gens qui peuvent être condamnés à une peine juste, des gens qui sont, Jean-Louis Pelletier disait, enfermés dans leur verdict. C'est-à-dire que la partie civile dit c'est juste, l'accusé dit c'est juste, le procureur dit c'est juste, l'avocat dit c'est juste. Donc, quand une condamnation est injuste, l'amertume qui en résulte perdure dans le temps. L'acquittement, c'est éphémère. L'amertume, ça reste longtemps.
Est-ce qu'on continue d'aller voir son client en prison, alors qu'il a été condamné, qu'il n'y aura pas de nouveau procès. Est-ce que vous considérez toujours comme son avocat ?
On a au cabinet une jeune femme dont le métier, si j'ose dire, la spécialité, c'est de suivre l'exécution des peines. On ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas plaider aux assises, assurer le poste pénal, tout suivre. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, on se répartisse les tâches. Donc, ça m'arrive... Mais ça n'est pas systématique.
Qu'est-ce que vous allez faire en attendant la réouverture des assises?
J'ai deux ou trois choses à préparer.
Des dossiers?
Bien sûr. J'ai coécrit avec Dominique Mattei, qui est l'ancien bâtonnier de Marseille, et Adrien Racquin, une nouvelle pièce qu'on espère mettre en scène, qui évidemment parle de justice, de doute, de contradictoire.
De tout ce dont on a parlé, au fond, dans cette émission.
C'est un résumé de l'émission, au fond. Je prépare aussi un livre de nouvelles, toujours sur le thème de la justice. Et puis moi, je reprends, je crois que c'est le 2 juin, parce qu'il n'y a pas de procès d'assises avant cette date, en ce qui me concerne.
Donc vous restez à Paris ou vous allez retourner
je ne sais pas encore.
Faire du jardinage?
Je ne sais pas encore.
Cultiver son jardin, c'est bien aussi, vous l'avez dit. Vous l'avez
si, découvert. Si je peux, je vais retourner cultiver mon jardin, oui. Voir si les arbres poussent. Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Et vous allez vous laisser repousser la barbe?
Oui. Ben, c'est déjà un peu le cas. Hein. C'est
pas oui, si, oui, ça commence.
Voilà, c'est une barbe naissante.
Merci Éric Dupond-Moretti de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.